monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler des médias, de la presse et de la citoyenneté. Depuis des décennies, la presse porte le surnom de quatrième pouvoir, à côté du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. On va se demander aujourd'hui si c'est encore le cas et quel rôle jouent les médias dans la société maintenant au XXIe siècle, et en particulier sur un sujet qui préoccupe Vivre Ensemble, qui est la justice sociale. Alors pour parler de ce sujet, j'ai invité deux personnes. Tout d'abord, Renato Pinto. Bonjour Renato.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur régional pour le Brabant Wallon pour Vivre Ensemble et Entraide des Fraternités, et vous venez d'écrire une analyse justement sur ce thème des médias et de leur rôle dans la société. Mon deuxième invité, c'est Bernard Henbert. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et depuis de nombreuses années, vous êtes, je vais le dire, un emmerdeur de service public, comme
exact.
Vous aimez à le dire. Vous défendez le service public, vous défendez les consommateurs de culture. On va avoir l'occasion de revenir sur ces combats tout à l'heure. Alors Renato, quand on regarde le journal télévisé aujourd'hui, comme presque tout le monde le fait, on a un peu l'impression que l'information a cédé la place à l'émotion, au spectacle, ou en tout cas qu'elle est subordonnée à l'émotion. Alors un journal télévisé aujourd'hui, est-ce que c'est fait pour informer ou pour accrocher le public ?
Alors le journal télévisé, comme un peu toutes les émissions, est soumis à la règle de l'audimat, de l'audience. On aura sans doute l'occasion d'en parler, mais évidemment il y a toute une logique commerciale et économique qui est là derrière. Et donc effectivement, le maître mot c'est l'émotion, et c'est comme ça que finalement on essaye au maximum de toucher les gens parce qu'ils leur est proche, parce qu'ils les concernent le plus directement possible. Et c'est ce qui nous amène à avoir, pour prendre un exemple extrême, à avoir par exemple 30 minutes de JT sur une journée enneigée où finalement tout le monde aura remarqué, simplement en ouvrant les yeux, que c'était bien le cas et qu'effectivement les voitures roulaient plus lentement. Donc voilà, pour prendre un exemple cliché, mais malheureusement exact.
Ce qui ne donne pas beaucoup d'informations sur la marche du monde. Bernard Henbert, vous observez les médias et en particulier la RTBF depuis de nombreuses années. Alors tout d'abord, pourquoi la RTBF spécifiquement ?
Mais parce que mon but c'est d'agir, donc j'agis en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc on peut agir en fait que par rapport à la RTBF, parce que RTL TVI a été délocalisé, en fait RTL TVI se trouve maintenant au Grand-Duché du Luxembourg et dépend des lois du Grand-Duché, et donc par exemple le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut plus rien faire par rapport à cette chaîne qui pompe son argent chez nous, mais qui s'arrange pour avoir une législation beaucoup plus laxiste là-bas et beaucoup moins de contrôle. Donc c'est la RTBF, mais c'est surtout pour une autre raison, c'est parce que c'est un service public et au moment où près de 80% de son financement n'est pas dû à la publicité, mais est bien dû à nous, à la collectivité, on a un droit de regard beaucoup plus important pour que cet outil fonctionne bien. C'est même pas un droit de regard, c'est une obligation des citoyens de contrôler que leur outil médiatique sert à quelque chose.
Donc vous disiez 80% du financement vient non pas de la publicité, mais du citoyen finalement, des contributions.
Oui, la dotation qui est la somme que chaque année la Fédération Wallonie-Bruxelles donne à la RTBF est en diminution. On est passé de 75 à 70, mais moi je dis 80 parce qu'il y a toute une série de compléments financiers qui arrivent. Par exemple, il y a une énorme somme qui est donnée par le ministère de la Culture pour Arte Belgique. Et il y a une série de ministères qui donnent de l'argent pour que certains types d'émissions existent. Par exemple, sur le troisième programme radio, il y a une émission culturelle qui est financée parce que indirectement une personne plein temps est payée par le ministère de la Culture pour pouvoir animer cette émission. Et donc il y a toute une série comme ça d'entourloupes qui fait en sorte que selon moi ça fait 80% pour le moment.
C'est ça, donc 20% pour la publicité, et pourtant cette publicité prend énormément de place à la fois dans le temps, à la fois dans la programmation aussi. De quand date cette mutation dont on parlait vers l'information spectacle finalement ?
Alors de quand elle date, elle est devenue progressivement, mais c'est sûrement, s'il faut trouver une date historique, c'est l'arrivée de la publicité. Et l'arrivée de la publicité, c'est simple, moi je ne retiens jamais les dates, mais je retiens l'événement lié aux dates, et bien c'est le concours Eurovision de la chanson quand il s'est passé en Belgique. C'est la première fois qu'on a mis du sponsoring autour des émissions pour financer le concours Eurovision, donc l'année suivante où notre chanteuse belge bien connue l'avait remporté. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et c'était par des ministres libéraux, mais c'était un patron de la RTBF qui était socialiste à l'époque, pour situer un petit peu plus les enjeux. Alors, Si je peux, c'est peut-être le plus simple, et moi j'aime bien être concret, je peux vous dire justement comment l'évolution se fait concrètement, parce qu'on en parle en théorie, mais dans le concret, l'actuel patron de l'ACTBF s'appelle Jean-Paul Philippot, il est juste là depuis un petit peu plus de 10 ans, et donc moi j'ai fait une enquête entre la semaine où il est arrivé il y a 10 ans et le 10e anniversaire pour comparer, pour voir l'évolution. Et bien en fait l'évolution principale au Primetime Télé, c'est qu'avant il y avait 5 soirées sur les 7 qui étaient consacrées à des émissions de type social, au sens large, donc c'était autant striptease que cartes sur table, que au nom de la loi, que l'écran témoin, etc. Et 2 au divertissement. Et bien maintenant, en 10 ans, on est passé à 2 émissions de type social et 5 soirées pour le divertissement au sens large, donc des séries, des émissions de variété, etc. Mmh. Donc en fait, on a perdu 3 soirées au niveau social. Donc ça vous montre qu'il y a vraiment, en 10 ans, ce qui est très peu, une énorme évolution. Et selon moi, c'est vraiment dû au développement de la publicité.
Mmh. Alors Renato, cette information émotion, cette information spectacle qui est destinée à attirer les téléspectateurs et à les faire regarder la publicité qui est avant et après, pour être clair, ça a évidemment des conséquences sur la façon dont les citoyens comprennent leur événement, qu'ils leur sont présentés ou qu'ils ne leur sont pas présentés.
Oui, donc il y a toute une série d'enjeux, hein, présents et évidemment à venir aussi, qui passent un peu à la trappe. Bon, il y a, pour citer encore des exemples très concrets, je parle dans mon analyse du tremblement de terre en Haïti, où évidemment on a eu toute une surenchère d'images dramatiques et fort logiques, mais en même temps, aucun élément de compréhension sur l'exode rural qui fait que des populations s'entassent dans des taudis à Port-au-Prince, aucune explication sur les dictatures en série qu'a connu le pays, sur l'emprise des États-Unis, l'emprise économique des États-Unis sur ce pays, et actuellement sur l'invasion, c'est bien le terme qu'utilisent les Haïtiens, des humanitaires, et bon, avec les conséquences que ça a par rapport aux donateurs, aux généreux donateurs qui ont effectivement été sollicités, on a fait jouer la corde sensible, et puis après, ces gens demandent des comptes, et on se rend compte que ben, la situation est toujours aussi catastrophique, simplement parce qu'on s'y est pas bien pris, mais puisqu'on n'informe pas, c'est compliqué. Je voudrais juste donner un autre exemple important, c'est évidemment la crise que l'on connaît depuis 2007-2008. C'est une crise du capitalisme, mais est-ce qu'on entend souvent ce terme-là ? Si peu. Donc effectivement, on commence à se poser des questions sur le rôle des banques, de la finance de manière générale, mais c'est quand même aussi le rôle des médias, des grands médias, de nous informer, de nous expliquer simplement ce qui se passe, et ce n'est pas à chaque citoyen de devoir faire lui-même l'effort d'essayer d'aller plus loin. En tout cas, il faudrait beaucoup plus une information de base par rapport aux enjeux de la crise économique.
C'est en tout cas une des missions de service public. On y revient après la pause musicale. Je vous propose d'écouter Claude Semal qui évoque un média relativement récent qui est Facebook.
Facebook, Facebook, j'ai plein d'amis quand je suis sur Facebook. Facebook, Facebook, mais dans la vraie vie je suis qu'un Facebook, Facebook, j'ai plein d'amis quand je suis sur Facebook. Facebook, Facebook, mais dans la vraie vie, je suis qu'un plouc. Je reçois des cœurs, des clips, des roses, des smiles, des câlins, des bisous, des kisses, des cools, de nobles causes, des photos de Tizi Ouzou. Il y a dans ma messagerie 20 Catherine, 10 Malinka, des filles d'Abidjan, de Russie, qui rêvent toutes de vivre avec moi. Facebook, Facebook, j'ai plein d'habits quand je suis sur Facebook. Facebook, Facebook, mais dans la vraie vie, j'ai pas le look. Ma boîte aux lettres est une auberge où 1000 vendeurs de Viagra se battent pour m'agrandir la verge ou me vendre des produits gras. Mais pourquoi s'allonger l'asperge pour jouer de la Vuvuzela? Y a des petits pornes quand tu cherches à monter la maïzena. Facebook, Facebook, oh je suis très sexy quand je suis sur Facebook. Facebook, Facebook, mais dans la vraie vie je me dégoûte. Je lis mes mails, les pubs, les spams. Je lis tous les quotidiens en ligne, les blogs des indignés d'Espagne. À chaque minute, mon Mac fait bling. Je clique d'un doigt les commentaires. J'aime ou j'aime pas, c'est mon avis. J'ai rien à dire, comment le taire? C'est petit rien, c'est toute ma vie. J'ai plein d'avis quand je suis sur Facebook. Facebook, Facebook, mais dans la vraie vie je suis qu'un. Facebook, Facebook, j'ai plein d'amis quand je suis sur Facebook. Facebook, Facebook, mais dans la vraie vie je suis qu'un plouc. Fais comme une cour. J'ai pas le look, je me dégoûte, je pue le bouc.
Voilà, Claude Semal et Facebook. Alors Renato, on revient donc à cette analyse sur les médias, la citoyenneté, la démocratie. Vous parliez donc de la façon dont les médias, les journaux télévisés en particulier, traitent les événements. Mais il y a aussi le choix de quel événement on montre, quel événement on ne montre pas. Et, ce qui a des influences parfois sur justement les choix citoyens des gens après.
Oui, donc y compris dans les urnes. Hein, donc je parle dans l'analyse d'un exemple très, très clair. C'est lors des élections de 2002 en France. Où pendant un an, sur la plupart des chaînes, le thème principal était celui de l'insécurité. Comme par hasard, l'extrême droite fait un bond dans les urnes. Donc voilà, évidemment, on peut toujours juste se dire que c'est une coïncidence, mais quand même assez intrigante. De manière générale, on pourrait aussi cibler tout ce qui concerne les sondages d'opinion qui se multiplient un peu dans tous les sens, surtout en période électorale. Mais voilà, il ne faut pas être grand communicateur pour se rendre compte que le simple fait de poser certaines questions, ou la manière de les poser induit évidemment un certain type de réponse. Et voilà, la multiplication de certains sondages sur le même thème pendant des périodes bien ciblées induit aussi une certaine façon de penser aussi auprès des citoyens.
Donc ça appelle vraiment à la vigilance constante. Alors en poussant plus loin la réflexion, vous montrez aussi comment, quand on commente l'actualité, on fait appel dans les médias à certaines personnes plus souvent qu'à d'autres, par exemple.
Oui, donc il y a eu un baromètre sur la diversité dans les médias qui est publié, qu'on peut trouver sur Internet, qui nous montre que effectivement certaines catégories de population sont, pour ainsi dire, masquées, cachées, presque absentes même dans les médias. En fait, en gros, plus on est jeune, homme, si on a entre 25 et 35 ans, et plus on a de chance de figurer dans les médias. À l'inverse, donc la représentation des femmes est vraiment totalement disproportionnée. Et donc, par exemple, les experts féminins sont, je crois, 18% des experts sont des experts féminins. Les personnes âgées représentées à la télévision, c'est 1 ou 2% de mémoire. Alors que dans la population, ils sont près d'un quart de la population. Donc voilà, il y a évidemment une certaine... La télévision renvoie une certaine image artificielle de la société telle qu'elle est représentée dans les grands médias.
Et par exemple, les personnes en situation de pauvreté, puisque c'est l'axe de travail de Vivre Ensemble, on les voit très peu ou alors sous un certain angle.
Absolument, donc tout ce qui est catégorie socio-professionnelle, entre guillemets moindres, chômeurs, etc., sont complètement, pratiquement absents. On leur donne très peu la parole, et quand on leur donne, c'est de manière caricaturale ou pour stigmatiser certains problèmes très précis.
Mmh. Bernard Henneberg, la cause de tout ce que Renato vient d'expliquer, c'est finalement que les médias sont entrés dans cette logique marchande qui est dictée par la publicité, et d'ailleurs, y compris, on l'a dit, les médias de service public comme la RTBF. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement une évolution inéluctable lié au capitalisme, auquel on peut difficilement échapper. Mais pourquoi faut-il résister? Pourquoi est-ce moins acceptable pour la RTBF, par exemple, que pour d'autres médias? Vous avez cité RTL tout à l'heure.
D'abord, ce n'est pas inéluctable. Moi, je mène un travail contre le fatalisme. Et bien sûr, toute la presse nous fait croire que nous, publics, on ne peut rien faire par rapport à la télé, c'est tellement important, etc. Et la presse quotidienne ne relève pas, ou pratiquement pas, quand justement des simples citoyens comme vous ou moi, par rapport à la RTBF, pour prendre cet exemple, mènent campagne et réussissent à avoir des avancées citoyennes, parce qu'il y en a. Par exemple, les news, le JT des enfants, c'est une bataille pendant 3 ans de la société civile, parce que la RTBF n'en voulait pas. Et tout récemment, donc au mois de janvier dernier, le nouveau contrat de gestion de la RTBF est apparu, et il y a une proposition que vous allez voir très très bientôt, très concrète, qui énerve énormément Jean-Paul Philippot, c'est que, et c'est justement une conquête citoyenne d'un travail de toute l'année dernière, notamment par le Conseil de la Jeunesse, par RTBF 89, etc., toute une série de gens ont réussi à conquérir le fait que le placement de produits, donc c'est-à-dire de la pub dans les émissions elles-mêmes, comme il y en a dans The Voice ou dans d'autres émissions de talk show, eh bien la pub qui apparaît dans l'émission elle-même, on voit les marques et les marques payent, donc on peut plus zapper, donc c'est un droit en moins, eh bien, donc c'est beaucoup plus pervers que des bêtes spots de pub habituels, eh bien, il n'y en aura plus à la RTBF, sauf dans les films et les téléfilms, parce que ça, on savait, sinon on ne pourrait plus les diffuser, ils viennent de France en général, mais donc dans toutes les autres émissions, il n'y en aura plus à partir du mois de juillet, et donc c'est vraiment une conquête des citoyens qui se sont mobilisés l'année dernière. Donc le fatalisme, non, on peut agir. Alors pour répondre au reste de la question, elle est longue, mais je vais essayer de donner deux tout petits points de vue, parce qu'on commence déjà à être pressé. Le premier, c'est que le problème fondamental, c'est que la dotation, donc les 80% que la RTBF reçoit de la population indirectement, est acquis une fois pour toutes. Et depuis 50 ans, jamais cette dotation n'a été diminuée. Et donc, même si la RTBF travaille très mal, continue à l'avoir. Donc, pour le directeur de la radio-télévision, c'est un acquis. Par contre, la publicité, chaque fois, à chaque spot, ils doivent se battre pour que ce soit chez eux plutôt que soit RTL TVI ou soit B3 ou autre. Mmh. Et donc, puisque vous avez une constante, mais vous mettez toute votre énergie, donc les meilleures heures de diffusion, vous donnez plus d'argent pour faire ces émissions-là, et surtout vous autopromotionnez partout pour dire que cette émission existe, pour ces émissions qui sont les émissions qui plaisent aux publicitaires et qui ne correspondent pas du tout aux missions du service public.
Alors le deuxième élément, on l'entendra après la deuxième pause musicale, je vous propose d'écouter Pierre Perret dont la télé est tombée en panne.
C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Ah, je m'en souviendrai longtemps, ce fut un sacré bon moment. On allait dîner tranquillement sans dévorer le petit écran, sans se barder la chemise de nouilles en regardant causer ses andouilles. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. On allait louper à coup sûr les attentats ou les coups durs, tout ce qui dégringole à la ronde sur la calebasse du pauvre monde, et tout le cortège des abusés, des mêmes qui sont toujours baisés. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Sucou mes parents pris de court voulaient appeler police secours. Ils se sont rués sur le palier, morale salement cisaillée. Prenant leur courage à deux mains, ils ont parlé à leurs voisins. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. Dans les étages de haut en bas, c'était partout le même tabac. C'était la panique dans la strasse, ils trouvaient ça tous dégueulasse. Qu'un gouvernement libéral puisse tolérer un tel scandale. C'était un soir, messieurs, mesdames, où la télé était en panne. On les a tous amenés chez nous, moi j'ai décroché mon bignou. Papa prit son accordéon, le voisin du dessous son violon. On a fait un bœuf du tonnerre, un truc qui vous fout le cul par terre. Pour finir la nuit, messieurs, dames, Cupidon se mêlant au programme. Incroyablement pour maman, son époux redevint son amant. Et quand mon vieux lui a dit je t'aime, ce fut comme un second baptême. Elle avait les calots brillants, un coup de grisou dans le palpitant. C'était un soir, messieurs, mesdames.
Voilà, c'était donc Pierre Perret avec la télé en panne, une bonne occasion d'aller leur dire bonjour à ses voisins. Donc Bernard Henneberg, vous nous parliez donc de la raison pour laquelle on ne pouvait pas accepter de la RTBF qu'elle se soumette aveuglément au dictat de la publicité. La deuxième raison, c'était ?
Mais c'est la suite. Donc l'influence des annonceurs est omniprésente dans ce qui se passe à la RTBF. Et donc vous parliez tout à l'heure de public favorisé, d'autres pas, médiatisé ou pas. Eh bien c'est justement là. C'est-à-dire qu'en fait, le service public, s'il est payé par nous tous, doit servir pour tous les publics. Eh bien quand on cherche de la pub, on ne cherche pas tous les publics. On cherche les publics qu'aiment les publicitaires.
Qui ont de l'argent donc.
Oui, et les publicitaires n'aiment pas les vieux, par exemple, parce qu'ils préfèrent les jeunes. Enfin, ils commencent à un peu aimer les vieux, il faut être nuancé. Mais ils préfèrent beaucoup plus les jeunes. Et pourquoi ils préfèrent les jeunes? Mais c'est simplement parce que c'est l'avenir, mais c'est l'avenir s'ils sont riches. Les jeunes pauvres n'intéressent pas les publicitaires. Mais surtout, c'est parce que c'est un public, le public jeune, qui change rapidement ses habitudes de consommation, alors que les vieux ne changent pas leurs habitudes de consommation. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il y a The Voice à 20h à la RTBF et qu'on fait une hyper promo tout le temps, partout autour. C'est pas parce qu'on cherche tous les publics, on cherche ces publics jeunes parce qu'ils vont changer rapidement leurs habitudes de consommation et qu'on veut avoir de la pub à la RTBF. Et donc, s'il n'y avait pas l'influence des publicitaires, ou seulement sur 20% des programmes, puisqu'ils ne payent que 20%, vous n'auriez plus ce genre d'émission, et vous aurez d'autres émissions qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que moi, personnellement, j'aime bien The Voice, mais pour moi, The Voice doit être sur RTL TVI. C'est une émission de chaîne commerciale, et très bien. Mais le service public doit faire justement d'autres émissions utiles aux citoyens pour faire évoluer notre pays.
Mmh. Renato, justement, ces autres émissions, elles doivent notamment concerner l'éducation permanente. Alors en deux mots, rappelez-nous ce que c'est l'éducation permanente et puis pour quel rôle les médias peuvent et doivent y jouer.
Pour vous répondre, je voudrais citer un extrait d'une interview d'Olivier de Schutter, qui est donc rapporteur aux Nations Unies sur le droit à l'alimentation, donc un problème évidemment bien concret. Et il dit ceci, « Je suis étonné que les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ne soient pas beaucoup plus mobilisés et en colère contre le monde que notre génération leur laisse. Je me suis parfois demandé s'il n'existe pas une sorte d'autisme coupable. » Eh bien, l'éducation permanente, elle vise justement à combattre cet autisme. Coupable, oui, mais dont la plupart des gens sont victimes précisément parce qu'ils sont mal informés, d'où l'importance d'une information concrète. L'éducation permanente vise surtout à avoir un esprit critique, à se former, à avoir une compréhension du monde et pouvoir se faire aussi une opinion. Et voilà, bien sûr, les médias et l'information de manière générale sont importants en ce sens.
Voilà, mais malheureusement, cette émission arrive déjà à son terme, on aurait pu en faire plusieurs sur le même sujet, mais je vous renvoie évidemment à notre site internet www.vivreensemble.be sur lequel vous trouverez cette analyse. Vous pouvez l'imprimer ou la lire à l'écran bien à votre aise. Elle est très très bien écrite et très claire. Un grand merci Bernard Henneberg d'être venu partager votre passion et vos combats. Merci Renato et à très bientôt sur RCF.